Actu SF, les podcasts.
On va commencer en espérant que ça fera arriver notre troisième intervenant. Donc d'abord, merci à tous d'être ici aussi nombreux. Je voudrais vous présenter pour cette table ronde les deux orateurs présents. Présenter est une mission presque impossible en ce qui concerne Gérard Klein. J'imagine que vous connaissez tous Gérard, qui est la mémoire vivante de la science-fiction française, qui est tout, qui est auteur évidemment. Je suis presque tenté de vous présenter Gilles d'Argir, puisqu'on va parler des années 50. Un certain nombre d'entre vous connaissent peut-être la saga d'Argir, qui est une série de romans de planète opéra des années, de la fin des années 50, du tout début des années 60, où Gilles d'Argir, aka Gérard Klein, a inventé un nombre impressionnant de choses. Chirurgien d'une planète, c'est probablement le premier roman sur la terraformation d'une planète. Les Voyages du Soleil, c'est probablement la première référence mondiale à des voiles solaires. Et puis, pour des raisons qu'il nous expliquera peut-être, ce n'était pas signé Gérard Klein à l'époque, mais c'était Gilles d'Argir. Gérard Klein est bien sûr l'auteur d'un très grand nombre d'autres romans sous son nom. Vous le connaissez probablement tous comme éditeur, créateur et fondateur de la collection Ailleurs et Demain, qui est la principale, la plus prestigieuse collection française de science-fiction sans doute, comme créateur de la grande anthologie de livres de la science-fiction aux livres de poche, et un grand nombre d'entre nous ont lu appris la science-fiction dans ses préfaces. C'est donc un auteur, un éditeur, c'est un essayiste, un grand théoricien de la science-fiction. Et on a déjà fait des tables rondes sur ce sujet, donc je ne reviendrai pas là-dessus. C'est aussi, dans une autre vie, un économiste, un prospectiviste, c'est un homme orchestre. Et c'est le plus récent grand maître de la science-fiction européenne, puisque cette année, enfin l'été dernier, la Convention européenne de science-fiction lui a décerné le titre de grand maître de la science-fiction. À ses côtés, Adrian Tchaïkovski, qui nous vient d'Angleterre, qui est l'auteur, en auteur avec évidemment une bibliographie un peu plus restreinte qui ne s'étend pas sur les 50 dernières années ou les 60 dernières années quasiment, mais qui est l'auteur en particulier de la Toile du Temps, qui a eu l'un des prix les plus prestigieux de la science-fiction mondiale, le prix Arthur C. Clarke, qui vient d'être traduit en français, qui est disponible à la librairie bien sûr et que je vous recommande, qui dans le civil je crois est juriste si je ne me trompe pas. Et puis qui vient de nous arriver, David Meulemans, qui est éditeur, qui est le créateur et le patron aujourd'hui des éditions des Forges de Vulcain, d'une petite maison d'édition qui sait prendre énormément de risques, qui a deux collections principales, une collection de science-fiction classique où vous retrouvez des auteurs comme Bellamy, enfin des textes anciens de la science-fiction qui méritent très souvent le détour et qui avaient été un peu injustement oubliés, que vous retrouvez maintenant aux Forges de Vulcain, et une collection d'essais avec, je pense en particulier à des textes d'Ursula Le Guin que tu connais très bien par ailleurs, dont le nom m'échappe sur l'instant.
Le langage de la nuit.
Le langage de la nuit. Et il est même allé jusqu'à publier Un métaphysicien, un essai de Quentin Meillassou sur non pas la science-fiction, curieusement, mais sur les mondes sans science, les mondes dans lesquels il est impossible de faire de la science, les fictions dans lesquelles il est impossible de faire de la science. Maintenant que nous sommes tous là, je suis tenté de me tourner vers Gérard. C'est pas complètement par hasard, j'avais une idée derrière la tête en te présentant comme Gilles d'Argir. Nous les Martiens et la faune de l'espace, c'est bien sûr une double référence littéraire. Nous les Martiens, c'est Jimmy Gueux dans les années 50, avec un grain de sel qui est aussi le titre d'un fanzine un peu perfide, ou qui a repris un peu perfidement ce nom un peu plus tard. Et la faune de l'espace, qu'Adrian connaît peut-être mieux sous le nom de Voyage of the Space Beagle d'Alfred Eaton van Vogt, c'est aussi un roman majeur des années 50. Donc, pas si longtemps, une petite dizaine d'années avant la saga d'Argir. Et donc, j'aimerais te demander de nous resituer un petit peu cette époque. Est-ce que le rapport de la science, en particulier de Jimmy Gueux et de van Vogt, est caractéristique de ces années 50 et est-ce qu'il a quoi que ce soit à voir d'une part avec ce que tu as pu faire quelques années plus tard et d'autre part avec la science-fiction moderne, la science-fiction actuelle.
C'est un petit peu difficile la réponse. Bon, il s'est passé dans les années 50 quelque chose de très particulier, de très intéressant, parce que je suis en train de travailler justement là-dessus pour un texte, parce que à peu près simultanément aux États-Unis et en France, il y a eu une espèce de bouleversement dans la perception de la science-fiction. Aux États-Unis, ça s'est traduit par la disparition progressive des pulps, grand format, avec des couvertures souvent très belles mais un peu tapageuses, et leur remplacement par des revues comme The Magazine of Fantasy and Science Fiction et Galaxy, qui était beaucoup plus de petit format, ce que les anglo-saxons appellent digest, et qui était beaucoup plus, c'était des véritables revues, enfin beaucoup plus intellectuelles, il y avait une recherche littéraire beaucoup plus importante. Ces revues étaient accompagnées également de comptes rendus de livres, enfin ça, c'était de véritables revues littéraires. Et le climat de la science-fiction américaine à partir de là a complètement changé. Bon, faut pas négliger Astounding, devenu Analog Fact and Fiction ou quelque chose comme ça, qui avait déjà fait évoluer les choses une dizaine d'années auparavant. Mais enfin, donc, en ce début des années 50, se crée également une collection prestigieuse, Valentine. Il se passe quelque chose. Bon, en France, on découvre la science-fiction américaine. La science-fiction française était bien connue, contrairement à ce qu'on entend ou lit parfois. La science-fiction française ancienne, celle du 19e siècle, celle du début du 20e siècle. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai de la musique dans mes oreilles. Mais donc, les collections ont commencé à apparaître, le rayon fantastique, présence du futur. Plus tard, j'ai créé Ailleurs et Demain, en 1969, à la fin, alors là, c'est en 1969, c'est nettement plus tard. Là, surtout au début des années 50, apparaissent aussi les revues fiction, Galaxy, qui est une édition de la revue américaine. Donc, le climat change complètement et va considérablement influer sur le développement de la littérature française de science-fiction et en particulier sur ce que j'ai écrit. Je connaissais bien, pour l'avoir cherché les livres sur les quais, dans les marchés de banlieue, etc., la science-fiction française ancienne. J'ai constitué une collection non négligeable, mais la science-fiction américaine, évidemment, encore modifié mon point de vue. J'ai été très frappé par des auteurs comme Van Vogt et puis comme Ray Bradbury.
Adrien, est-ce que tu es encore influencé comme auteur du 21e siècle, voire déjà de la deuxième décennie du 21e siècle, par cette science-fiction des années 50, ou est-ce que pour toi c'est la préhistoire de la science-fiction ?
I think you can't really not be influenced because, you know, when I was growing up, I read a lot of science fiction. I read whatever the library had, and that went all the way back to the 50s and 60s. And so that kind of becomes the soup your brain is stewing in through your formative years, and all those ideas go in. And although you might not be able to point to this book or that book specifically that really fired you up, everything you turn out is always going to be informed by all the books you've read, and an awful lot of those are going to be from that, what they call, you know, the golden age of science fiction. But I mean, I think at the same time, when you have that very large sort of body of writing, frequently much of which is coming from a particular cultural perspective, it's written by a particular demographic of people, you can also feel sometimes that it's something you also need to get a bit of an escape velocity from in order to put over ideas that are going in a bit of a different direction.
Tu as toi-même créé des animaux assez étranges, je pense, dans la toile du temps, à ces araignées un peu particulières, qui sont à la fois des araignées extrêmement intelligentes, qui ont un côté années 50 dans le côté super monstre géant, et qui en même temps ont une société, on parlait ce matin de société d'insectes. Il y a visiblement une réflexion sur la société, non pas anthropologique, mais je ne sais pas quel est le terme pour les animaux. Ce n'est même pas éthologique, c'est presque de l'anthropologie appliquée à des animaux extraterrestres. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette double nature de tes araignées et de tes créations?
Yes, I mean, for those who don't know the book, Dans la Toile du Temps is focused on a planet that was terraformed by humans, and the humans then have a catastrophic collapse of their society, and the planet is left to develop on its own, and what develops there is a civilization of sort of intelligent and technically advanced spiders that have gone in a very different direction to the direction we have. And all, they also, when you're talking about insect societies in particular, they spend a lot of their early history fighting it out with a hive society of ants with whom they're kind of disputing the ownership of the planet. And yes, it was, I mean, it would, to a certain extent, there's obviously, I get, in using non-humans like that, you get to explore a lot of human nature, but also there's a real joy in just the creation of a society like that, building it up from the ground, working out all of the logical repercussions of having such a non-human protagonist in the story, and having such a working with a creature with different senses and different physical capabilities and a very different sort of social organization to ours, is a wonderful sort of new world that you can just explore. And then, of course, you bring humans back in, and everything goes horribly wrong.
David, est-ce que ça fait partie des choses qui t'intéressent chez les auteurs que tu publies? Je pense en particulier à Ursula Le Guin, qui a eu un rôle très important dans l'introduction de l'anthropologie ou la création d'une science-fiction, d'une art science-fiction liée aux sciences sociales. Ça fait partie des choses que tu explores?
Oui, parce que, alors, en tant qu'éditeur, on apprend parfois à travailler avec des auteurs contemporains en regardant comment des éditeurs dans le passé ont travaillé avec leurs auteurs ou parfois comment les auteurs ont travaillé. Et ce qui me frappe beaucoup depuis des années et aussi en venant ici, c'est que les auteurs de science-fiction, en fait, leur nom, auteurs de science-fiction, rappelle qu'en fait, ils sont dans une double filiation. C'est-à-dire ils sont à la fois des auteurs de science d'une certaine façon, donc il faut souvent que dans la science-fiction, parce que c'est le besoin des auteurs, qu'il y ait une référence scientifique et une culture scientifique, une réflexion, une imagination rationnelle. Et de l'autre côté, c'est aussi des auteurs de fiction, ça veut dire ils sont aussi dans une filiation de lecture. Par exemple, ce qui est très frappant dans le texte d'Adriane, c'est que à la fois quand on voit ressurgir ces insectes géants, ça évoque plein d'autres romans ou même de la fiction cinématographique des années 50, certains films à grand spectacle américain. Ça évoque aussi Starship Troopers, le roman et le film qui sont distants de 40 ans. Mais aussi, le texte d'Adrian est extrêmement nourri de réflexions. Alors, par exemple, un truc très très simple, c'est que je me souviens d'avoir lu une fois un article sur Starship Troopers, sur le film, qui disait en fait, des insectes comme Starship Troopers ne sont pas possibles, aussi grands, parce qu'en fait, ils s'écraseraient sous leur propre poids. Ils ne pourraient pas être sous la même gravité que nous. Et en fait, dans le roman d'Adriane, il y a un peu une explication, parce que très discrètement, en fait, et peut-être qu'il précisera s'il l'a fait volontairement ou non, on découvre que l'exosquelette interne, l'exosquelette de ces araignées est effectivement fait pour qu'elles puissent survivre à la même gravité que la gravité des êtres humains. Mais pour revenir à Ursula Le Guin, qui est effectivement une romancière que je publie, mais pas en tant que romancière, en tant qu'essayiste. Donc il y a plein d'éditeurs qui publient sa fiction, donc le travail est déjà fait et bien fait par plein d'éditeurs. notamment par Monsieur Klein qui l'a publié, qui lui a consacré des essais et des préfaces. Moi, je fais un travail qui est plutôt sur la partie non-fiction, c'est-à-dire sur ses essais. Elle aussi, elle est dans une double filiation, Ursula Le Guin, mais alors ce qui est particulier chez elle, c'est que sa formation personnelle, parce qu'elle vient d'une famille d'anthropologues, c'est que la science qu'elle introduit, c'est effectivement l'anthropologie. Alors l'anthropologie, ça veut dire que par rapport à d'autres auteurs, ces extraterrestres sont très souvent à figure humaine. Et ce qui intéresse chez eux, c'est la variation culturelle et pas la variation biologique par rapport à notre monde.
Adrien, est-ce que tu veux répondre à cette interpellation sur les exosquelettes de tes araignées?
Well, I because I was aware that it would be a bit of a sort of a conceptual hill for people to get over, I did my absolute best to make the science behind the spiders as convincing as possible. I went to the Natural History Museum in London. I went sat in with their entomology department, discussed all of the various problems you have. And I think one of the advantages I've got is, although obviously these days insects are very small, we know that back in the Carboniferous and the Permian periods, they were actually pretty big. You had millipedes that were as big as people. We know that what a lot of what we think of as the hard limits of exoskeletal biomechanics aren't actually as hard as you think. And you don't need to tweak it that much before you can get them big again. And so I've got the atmosphere of Kern's world, where this takes place, has a higher oxygen contingent, so that arthropod respiratory systems are able to function more efficiently. Which is, I mean, again, there's been research quite recently that people have raised insects in high oxygen environments, and they do actually just grow bigger quite naturally. So it's already hardwired that if you give them that kind of atmosphere, they will get bigger and they will get more efficient. And at the same time, you know, you run into problems like molting the exoskeleton is a really difficult problem, because then you run into physics issues, and I was able to talk through possible solutions to that, and that's all in the book. And also, because I'm dealing with a species that's evolving, I can say, well, all right, now they have they can manipulate the muscles of their abdomen, so their respiration is more efficient, because the respiration is much more of a limiter than the actual exoskeleton itself. And you know, I give them a more towards a warm-blooded metabolism, which again is not entirely unknown. You can draw on various things that other non-spider species have evolved in the real world and said, well, wait, you know, they get this and they get that. And you find out it's surprisingly easy to work your way through that kind of logical maze to something that is entirely physically possible. And yeah, you know, it's a spider the size of your head.
Gérard, comme David le rappelait, tu as publié un très grand nombre d'auteurs avec une faune tout à fait étrange. Tu as préfacé ces auteurs avec souvent des idées assez fulgurantes sur l'utilisation de cette faune. Je ne me souviens pas de bébêtes particulièrement étranges dans tes propres œuvres.
Si, je suis même venu exprès pour en parler.
Ah bah, allons-y.
Il y en a au moins deux. Dans Les Seigneurs de la Guerre, il y a le monstre qui est une créature absolument épouvantable, capable de pratiquement détruire une planète, enfin, mais qui est peureux comme un petit chat. D'ailleurs, la première phrase du livre, c'est « Le monstre pleurait comme un petit enfant ». Il se sent un peu perdu et ça ne va pas du tout pour lui, malgré ses capacités de destruction extraordinaires. Et alors, c'est comme les chats, moi j'aime beaucoup les chats, le monstre, pour échapper à ce qu'il croit qui le menace, ou à ce qui le menace réellement, il a une technique très simple, il se déplace d'environ 10 secondes dans le temps. Et si vous connaissez bien les chats, vous savez qu'ils le font, qu'ils traversent les murs, qu'ils traversent les portes, enfin, mais toujours, toujours quand on a le dos tourné. Mon deuxième extraterrestre important pour moi, en tout cas auquel je tiens beaucoup, c'est l'Ubionaste, dans une de mes nouvelles, dont le nom m'échappe maintenant, enfin qui figure dans un de mes recueils. Le nom revient à place, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est l'ubionaste. Les ubionastes sont à l'état naturel des espèces de gigantesques baleines de l'espace qui vivent dans le vide, qui se nourrissent de radiation, enfin qui sont véritablement gigantesques. Elles font plusieurs kilomètres ou dizaines de kilomètres de long et au moins autant de diamètre. Et qui ont été exploités par les humains, enfin qui ont été dressés par les humains pour servir de transport interstellaire. Et la nouvelle en question, qui s'appelle Jonas d'ailleurs, raconte comment un de ces ubionastes se rebelle et tue tous ses passagers. Et décide de prendre la liberté. La question qui se pose au personnage principal, c'est de savoir s'il faut le détruire, ce qui risque de provoquer des problèmes graves dans le système solaire où il se trouve, ou bien si on le laisse s'échapper. Et le personnage, mon héros, persuade les autorités de laisser s'échapper cet ubionaste. Alors, il y a une chose curieuse quand j'ai écrit cette nouvelle, c'est que au départ, je ne savais pas comment appeler cet être, et puis s'est imposé à mon esprit le terme du bionaste. Et c'est seulement assez longtemps après, pas sur le coup, que j'ai compris que ça pouvait être une espèce d'acronyme pour unité biologique de navigation stellaire. Vous voyez comment fonctionne l'inconscient, hein ? Il vous propose des trucs dont vous ne connaissez pas la signification, mais qui ont un sens.
Tu sembles jubilé encore au souvenir de ces créations. Est-ce qu'il y a un plaisir particulier à créer des monstres ou des animaux tout à fait étranges par rapport à ce que tu fais plus souvent, de création de sociétés, de personnages très profonds ?
Oui, enfin, comme tout dans la littérature, enfin, en ce qui me concerne au moins, je ne sais pas en ce qui concerne mes distingués collègues, ça vient, enfin, ou ça ne vient pas dans les deux cas. Quand j'ai commencé à écrire « Les siens de la guerre », j'avais cette première phrase, « Le monstre pleurait comme un petit enfant », et puis après, il fallait que tout le reste, une partie du reste, en tout cas, en découle. Et en ce qui concerne la baleine, enfin le transport interstellaire d'origine naturelle, là aussi l'idée s'est imposée, puis après m'est venu ce nom. J'ai dû créer quelques autres extraterrestres, mais franchement, je m'en souviens pas. Je ne crois pas que Gilles d'Argir en ait jamais créé. C'est plutôt la responsabilité lourde de Gérard Klein.
Adrien, tu nous parlais de ton rapport à la science pour le...
Hold on. I have no translation. Ah, no, that's good. Good.
Okay. Tu nous parlais de ton rapport à la science dans la création de tes araignées, mais est-ce qu'il y a aussi cet aspect ludique, cet aspect jubilatoire de jouer avec des êtres tout à fait imaginaires et impossibles sur notre planète ?
Yes, that's absolutely why I became a science fiction reader, or why I used to watch Doctor Who or Star Wars, and it's absolutely why I write science fiction and fantasy as well. To be honest, it's the idea. I mean, you were talking about creating the monster or creating the society, but for me, the fascinating thing is you create the monster and then you extrapolate what its society would be. So. Whether you're starting with, if you have a group of humans, all of whom can change shape, and think, well, what are the ramifications of that? How do they relate to their world? How do they relate to each other? What do they do that we can't, and what don't they do that we can? Because they never needed to. And the same way with the spiders in Children of Time, or with some even more bizarre. Creatures I deal with in the sequel that's coming out next year. It's just that utter joy of...
Il faut nous en dire plus. Il faut nous en dire plus sur ces nouvelles bestioles encore plus extraordinaires.
Well, in one of the several bizarre things in the sequel is I have a civilization of octopuses. And I did a lot of research into what little we know about sort of octopus mentality and cognition. And one of the things you have is the octopus brain is not particularly in control of most of the octopus, because all of the arms have their own sort of distributed neural network. And what happened, the octopus cannot know what its arms are doing, because the permutations of the arm, they're effectively too complex for it ever to know. It doesn't have, you know, if you hold your arm behind your back, you can feel where your arm is. The octopus doesn't have any of that because the arms are semi-independent. And so if you sort of scale that up to say, well, all right, if, what if they're sentient enough that they have a society? You have a creature whose conscious mind is the equivalent of our subconscious. So they are a creature entirely of emotional drive and whim. And when they want them to happen, the arms are a subconscious that has a very logical, mathematical way of then working out how to put into action what the brain wants. So the brain is almost like a magician. They think, well, I want this to happen, and then it, that thing will happen because the arms will do it, but the brain will not understand the logical cause and effect. It'll simply know that what it has decreed has come to pass. And that very nearly broke my own brain, trying to work out how to write from the point of view of those creatures.
Oui, à propos des pieuvres, je dois dire que j'ai lu quelques articles scientifiques assez récemment, et ce sont des animaux extraordinairement intelligents. Parmi les invertébrés, ce sont de loin les animaux les plus intelligents. Seulement, ils ont un gros problème, c'est qu'il n'y a pas de transmission d'un savoir d'une génération à l'autre. La pieuvre meurt en général quand ces petits, si je puis dire, sortent de l'œuf, j'espère pas dire bêtise. Or, assez récemment, on a découvert le cas d'une pieuvre qui avait survécu et qui avait, dans une certaine mesure, élevé ses petits, en tout cas accompagné dans la vie ses petits. Mais c'est des êtres d'une intelligence extraordinaire, et si on les modifie un peu, il est très possible qu'ils nous égalent, enfin, pourquoi pas nous dépassent. J'écrirai peut-être un jour quelque chose là-dessus.
David, du point de vue de l'éditeur, ce sont des histoires qui intéressent aujourd'hui, qui sont vendables aujourd'hui. Si quelqu'un arrive avec un roman avec des créatures extraordinaires, comme on pouvait en voir dans les années 50, ou comme on en trouve encore aujourd'hui au moins dans la littérature anglo-saxonne, c'est des choses qui peuvent être vendables.
Oui, mais alors, quand je parlais tout à l'heure du fait que les auteurs de science-fiction ont une sorte de double filiation à respecter, parfois ce qui est un tout petit peu gênant dans les manuscrits qu'on peut recevoir, c'est que c'est des manuscrits d'auteurs de science-fiction qui ne sont que lecteurs de littérature de science-fiction et donc ont une culture scientifique un peu faible. Ce qui n'est pas un problème parce que la science-fiction, c'est un spectre très très étendu. On peut être un grand auteur de science-fiction en ayant des connaissances ou un intérêt pour la science très limité. Mais c'est vrai que parfois, je reste un peu sur ma faim parce que ce type d'auteur avec une forte connaissance scientifique comme Adrian devient plus rare. Mais c'est vrai que par exemple quand je réfléchissais sur ce panel, je me rends compte que ces jours-ci, Mars revient et qu'il y a une dimension de discussion générale sur Mars qui peut relancer une vague de romans là-dessus, avec toujours cette idée que souvent les romanciers ont une capacité, alors pas vraiment à prédire l'avenir, mais à donner des idées sur un futur. Je pense juste à un truc très simple, c'est que sur Mars actuellement, il y a deux types de rapports à Mars qui sont en fait opposés et parfaitement combinés l'un à l'autre. C'est que Mars, c'est à la fois une forme d'horizon, de futur, c'est-à-dire c'est Elon Musk, il faut qu'on aille sur Mars, ce type de choses. Il y a des films, il y a des séries télé sur ça et, depuis quelques années. Et en même temps, dans beaucoup de textes ou de films de science-fiction sur les dernières... sur les dernières années, Mars, c'est un autre type de futur, c'est-à-dire que ça montre ce que peut devenir la Terre, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe une fois que l'atmosphère a été détruite, et voilà. Et souvent, en fait, on se retrouve avec des figures de martiens qui sont des civilisations qui ont été détruites, des organismes qui ont été détruits, qui nous laissent un message comme dans le Mission to Mars de Brian De Palma. Bon, désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu, je viens de donner la fin du film, qui laisse un message sur ce type de choses. Et en fait, sur ce type d'imagination, je parlais de culture scientifique. En fait, en lisant le roman d'Adriane, je pensais, moi, à une lecture scientifique que j'ai eue il y a quelques années. Alors, moi, je n'ai pas une grande culture scientifique. Comme malheureusement beaucoup d'éditeurs, j'ai plutôt une formation littéraire ou philosophique. Mais une lecture que j'avais eue il y a quelques années, où je m'étais dit, c'est une vraie matrice à fiction, c'est les efforts de vulgarisation de Stephen Jay Gould, l'Américain qui était un biologiste. Et il y a notamment plusieurs textes qu'il a écrits sur quelque chose qui s'appelle la faille de Burgess. Burgess, c'est un lieu au Canada où on a découvert à la fin du 19e siècle, et c'est encore en étude aujourd'hui, des fossiles de créatures extrêmement anciennes qui n'ont pas eu de descendance, en fait. C'est-à-dire il y a eu un problème, alors vraisemblablement pas climatique, mais plutôt de l'ordre de la tectonique, voilà, où il n'y a pas eu de descendants de ces formes. Et effectivement, c'est des formes un peu comme celle d'Adriane, c'est-à-dire que ça ressemble à des insectes, mais vraiment, ce n'est pas des insectes, ce n'est pas de la classifier comme étant les ancêtres des insectes, mais ils ont des formes extrêmement étranges, et ils sont relativement gros, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller jusqu'à 30-40 cm en ayant une carapace, un exosquelette, c'est des invertébrés, et voilà. Et je me disais que rien qu'en piochant chez Stephen Jay Gould, il y a matière à écrire des dizaines de romans sur à quoi ont pu ressembler les Martiens, s'ils ont existé, ce type de choses. Mais alors moi, je ne suis pas auteur, je suis éditeur. Mais parfois, le rôle de l'éditeur, ça peut être de faire lire des choses aux auteurs en disant, tiens, il y a peut-être une idée là-dedans, est-ce que tu ne veux pas écrire une nouvelle là-dessus, une novella ou ce type de choses?
Oui, ce que je voulais faire remarquer, qui confirme ce qu'a dit au début de son intervention, là, ma collègue et amie, c'est que moi, j'ai été comme éditeur très embarrassé souvent par l'absence de culture scientifique des auteurs français de science-fiction qui ne connaissent que la science de la science-fiction, c'est-à-dire pas grand-chose, à l'exception notable de Michel Jury et de Philippe Curval, qui s'étaient dotés d'une vraie culture scientifique. Je pense personnellement avoir aussi acquis, bien qu'étant à la base un littéraire ou un économiste littéraire, une culture scientifique. Je viens d'ailleurs de publier avec Jean-Pierre Farabou un bouquin sur la physique quantique assez calé. Mais ça m'a vraiment gêné, alors que parmi les écrivains anglo-saxons, qu'il s'agisse d'Arthur Clarke ou beaucoup d'écrivains américains, ils avaient soit une formation scientifique, soit acquis une véritable culture scientifique. Même quelqu'un comme Van Vogt ou quelqu'un comme Sir John, ça peut surprendre, mais on trouve facilement derrière leurs textes des données scientifiques repérables. Je vais citer un exemple, par exemple, parce qu'il est très curieux. Et il rejoint un peu le thème de, non pas des extraterrestres, mais des êtres différents. Le cristal qui songe de Theodore Sturgeon, qui est un admirable livre. Il y est question de cristaux intelligents, enfin pensants, et qui influent sur leur environnement, et en particulier l'environnement humain. Alors on peut se dire que c'est une idée comme ça, fantastique, fantaisiste, très belle, mais sans fondement. Alors il se trouve que deux ou trois ans avant que paraisse le livre de Sturgeon, est paru un essai très important d'Erwin Schrödinger, un des fondateurs de la physique quantique, qui s'appelle « Qu'est-ce que la vie ?» et où justement il assimile, bien avant d'ailleurs qu'on connaisse l'ADN, l'ARN, etc., il assimile la structure fine du vivant à décristallisation. Je suis convaincu, ce livre avait eu un grand succès aux États-Unis, et je suis convaincu que Sir John l'avait lu.
Je te trouve un peu sévère sur la culture des auteurs français. On a aujourd'hui, je pense, on avait une table ronde ce matin avec Raphaël Granier de Cassagnac, qui est physicien nucléaire. Et si on prend la génération précédente, on peut avoir Philippe Goy, qui était physicien.
N'a pas écrit beaucoup. Je l'ai connu, j'ai essayé de lui extorquer un texte. Je n'ai pas dû utiliser des méthodes suffisamment violentes. Cassagnac est un excellent physicien. Non, mais ça, c'est la génération tout à fait nouvelle. J'ai quand même œuvré pendant un demi-siècle en tant qu'éditeur. Et ce qui m'a quand même frappé, c'est l'ignorance basique, enfin quelquefois terrifiante, d'écrivains par ailleurs très intéressants, très remarquables, écrivant très bien, mais des réalités scientifiques les plus élémentaires. c'est qui est quand même un peu gênant quand la science de la science-fiction, c'est au deuxième, troisième, quatrième, parfois cinquième ou sixième degré, ça devient un peu bizarre. On peut le traiter sur un plan logique, c'est souvent ce que j'ai fait, sans faire directement allusion, enfin sans m'inspirer directement de données scientifiques, mais encore faut-il que la logique qui sous-tend l'histoire soit solide, et ça demande une certaine formation philosophique.
Avant de donner la parole à la salle, parce qu'on pourrait continuer encore longtemps, j'aimerais, puisqu'on n'a pas tellement parlé de bébêtes, vous demander à chacun, en dehors de vos propres créations, quelles sont vos bébêtes préférées, vos spatiales préférées.
Moi, j'en ai deux. Il y a le Solaris de Stanislas Lem, qui est peut-être un être planète. Alors, ça pose un problème scientifique très aigu, dont Lem, qui avait une vraie culture scientifique, était peut-être averti. Comment est-ce qu'une évolution darwinienne peut donner naissance à un être planète solitaire, alors que par définition, une évolution darwinienne implique des interactions, des complémentarités et des concurrences entre des individus différents et des espèces différentes. Donc Solaris. Et puis alors il y a un extraterrestre de Vernon Vinge que je trouve particulièrement astucieux. Je ne me souviens plus exactement du titre du roman, même si je l'ai publié. Il est question de chiens. De chiens intelligents, mais qui fonctionnent par groupe. L'idéal, c'est qu'ils soient au moins 5, et à ce moment-là, avec leur museau, ils forment comme une main, ce qui leur permet de manipuler des objets, de fabriquer, enfin d'avoir une industrie. Ils peuvent aller jusqu'à 7. Leur degré d'intelligence augmente avec le nombre de participants, et il diminue avec le nombre, quand le nombre de participants diminue. Et seulement au-delà de 7, ça devient très instable. Ils ont tendance à une espèce de schizoïdie. En dessous de 4 à 3, ils ne sont pas très malins. Alors, comme ils forment avec des groupes très soudés, quand un est tué, il est extrêmement difficile de le remplacer. Je trouvais que ça très, très habile de Vinge et très convaincant, sa description.
Il me semble que c'était dans Un feu sur l'abîme.
Oui. Pardon ?
Il me semble que c'était dans Un feu sur l'abîme.
Exact.
Quel est ton animal préféré, ton animal spatial préféré en dehors des tiens?
I think the Vinge book that is actually genuinely one of the best, but just purely because he goes through all the ramifications and all the opportunities that very bizarre setup gives you, and he creates a full culture and. It's quite awe-inspiring in scope. He also, and I'm very glad I didn't read this before I wrote Children of Time, but he also then does one with spiders, which is, in English, is A Deepness in the Sky, as a kind of a sequel to that one, which, again, he looks... in that case, you have a planet which naturally basically freezes over in a long winter, and all of the spider-like inhabitants... hibernate, but you start off with them just hitting the point where their technology is sufficient to allow them to start to push that envelope and stay out longer and effectively run into not just the physical problems, but a huge cultural taboo because their whole society is to do with, you know, you wake up and you go to sleep and you wake up and you go to sleep. And when that start changes, it destabilizes the way that their culture works. So, I mean, Vin is one of the real sort of visionary imaginations of creating aliens.
Alors moi, c'est pour revenir à ce que tu disais au début sur Le Guin, et pour rebondir ce que disait tout à l'heure, ce que disait Adrian sur le fait qu'il ne faut pas simplement créer une biologie, il faut créer aussi des sociétés qui reflètent ces biologies. Moi, les bébêtes qui me fascinent le plus ces jours-ci ne sont pas vraiment des bébêtes, c'est des frères humains, mais un peu particuliers. C'est dans La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin, il y a cette expérience de pensée de dire, si on retire l'identité sexuelle, qu'est-ce qui reste de l'être humain ? Puisque dans le monde évoqué dans ce roman, dans La main gauche de la nuit, en fait, les individus ne sont pas vraiment sexués, ou plutôt leur identité sexuelle évolue. Ils sont tour à tour mâles et femelles. Et je trouve ça assez fascinant. Et en plus, il y a Alors, Le Guin, pour le coup, je disais, sa science, c'est l'anthropologie, c'est pas nécessairement la biologie, mais on devine que ce qui est sous-jacent, c'est que l'humanité est partie à la conquête du cosmos, et ça fait tellement de millions d'années qu'elle est dans le cosmos, qu'en fait, il y a des spéciations au sein de l'humanité qui fait qu'il y a des parties de l'humanité où la question de l'identité sexuelle n'est pas la même. Alors, c'est pas complètement des bébêtes, mais c'est une expérience de pensée biologique avec ses conséquences anthropologiques, c'est-à-dire comment fonctionne une société. Et il y a cette phrase, alors Le Guin dit, c'est la phrase dont je suis la plus fière dans toute mon œuvre, c'est the king is pregnant, le roi est enceinte. Voilà. Et je pense que c'est une phrase qui est à la fois biologique et politique et anthropologique et que je trouve fascinante.
Est-ce qu'il y a des questions pour nos intervenants? Oui. Est-ce un micro circule? Merci.
En fait, j'ai une question au sujet d'organismes spatiaux. Par exemple, j'ai un exemple de bébête spatiale. En fait, des espèces de vers qui habitent dans d'autres dimensions, des espèces de vers un peu bizarres, en fait. En fait, bébés, ils sont grands, ils sont longs comme la distance entre Mercure et Uranus. Mais après adultes, ils deviennent tellement grands qu'ils peuvent en fait relier des galaxies comme ça à leur longueur totale. En fait, après ces bébêtes vivent dans d'autres dimensions, elles sont extradimensionnelles. C'est un peu extraterrestre. En fait, extradimensionnel, c'est un peu un stade avancé de ce qui serait extraterrestre. En fait, des vers. Qui traversent des dimensions comme ça normales, la troisième jusqu'à la dixième, ou même jusqu'à la trentième, jusqu'à des dimensions un peu improbables. Après, j'ai un autre exemple qui s'inspire des cristaux pensants, en fait, des créatures faites de matière stellaire, en fait, qui composent même les étoiles, en fait, des trucs comme les étoiles, mais qui pensent, en fait, c'est un peu des intelligences un peu bizarres, ou bien l'exemple d'étoiles de mer, des astéries pensantes.
Quelle était ta question?
En fait, ma question, c'est sur des organismes. Un peu particulier, en fait, j'ai un exemple, je reparle de l'exemple des vers transdimensionnés, en fait, qui ont des longueurs assez démesurées, en fait, bébés que je mentionne. En fait, bébés, ils sont déjà longs comme la distance entre Mercure et déjà Pluton. Et adultes, ils sont encore tellement grands qu'on ne peut même pas mesurer vraiment leur longueur, en fait. Comme je dis, c'est transdimensionné, en fait, ce qui est un stade avancé de ce qui est extraterrestre. Ça, c'est bizarre. Après, d'autres exemples de bébêtes que je pourrais mentionner.
Je crois que Gérard, ce sont des choses qui sont envisageables. C'est de la science. Tu ranges ça dans la science-fiction, dans la fantasy?
J'ai l'impression que c'est de la science-fiction, de la science-fiction, de la science-fiction, de la science, de la science-fiction. Je ne connais pas le texte qui a inspiré l'intervenant. Et il faut quand même pas se mélanger dans les dimensions. Disons que les distances interplanétaires sont déjà considérables, mais les distances intergalactiques, c'est plusieurs autres ordres de grandeur. Et très souvent, certains auteurs s'y perdent.
Moi, juste pour participer à cette expérience de pensée, comme moi, je ne suis pas écrivain, mais j'ai quand même un esprit logique, je vois bien, juste, déjà, il y a deux facteurs différents qui sont l'espace et les multidimensions. Je suggérerais de me concentrer uniquement sur la notion de grande taille, et à partir de ce moment-là, je vois toutes les questions. Alors, répondre à ces questions, ça ne suffit pas à faire une œuvre d'art, puisque dans science-fiction, il y a toujours fiction, donc il faut avoir un sens artistique, mais les deux questions qui viendraient, c'est comment peuvent naître de tels organismes, alors que généralement on considère que les organismes viennent d'une atmosphère ou d'une planète, et donc s'ils sont entre planètes, comment ça vient? Et l'autre chose aussi, et là je trouverais ça vraiment très très rigolo, c'est il y a quelques semaines, dans le cadre de Pint of Science, qui est un rendez-vous annuel au mois de mai de vulgarisation scientifique, j'ai vu il y avait un panel sur la physique où il parlait en fait des distorsions de l'espace et sur le fait que c'est un phénomène connu, voilà, et je me demande comment un organisme très grand pourrait être distordu, parce que nous finalement nos corps ne sont pas distordus par les distorsions de l'espace, il faudrait une certaine taille pour y arriver. Je trouve que ça serait marrant juste de poursuivre l'expérience comme ça, mais bon, c'est le travail d'un écrivain, pas le mien.
D'autres questions? Oui.
Ah, je pense juste à une chose sur les bébêtes, ça m'y fait penser. Une autre bébête auquel j'ai oublié mais qui est importante, c'est les vers de dune. Voilà.
Oui, c'est une belle bestiole.
Oui. Oui, ben ça fait la transition un petit peu avec, si j'ose à peine dire, avec l'objection que je vais formuler. Je trouve que dans votre approche de la science-fiction, excusez-moi, mais il y a, c'est peut-être la traduction française, il y a peut-être des pays où on le baptise autrement, ça, j'ai juste de penser à ça. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de science et peut-être une trop grande prééminence de science. Parce que je pense que je voyais Spinrad, par exemple, enfin, ce qu'il a écrit ou autre. Il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes et qui nous touchent directement et qui nous interrogent et qui mettent moins l'accent sur la science. En poussant très très loin le paradoxe, je pourrais dire que quelquefois, s'appuyer sur la science, c'est un peu comme certains, comme les dérives qui font s'appuyer, qui font que la fantasy s'appuie sur la religion ou la sorcellerie et du coup on peut dire et écrire n'importe quoi. Donc, je mets un petit peu des bémols sur l'ultra-science, quoi, en fait. Hein. Et pourtant, j'ai une formation d'ingénieur, mais c'est vrai que dans ma jeunesse, on s'est beaucoup appuyé, justement, sur la sociologie, etc. Et c'est beaucoup ce qui a fait plus bouger le monde que la science, malgré tout.
Parce que je peux répondre juste en tant que jeune éditeur. C'est simplement, je ne dis pas du tout que la science-fiction, ça doit être ça. Puisqu'il y a beaucoup de chefs-d'œuvre de science-fiction qui sont légers sur la science, et heureusement que la science-fiction, c'est pas ça. Donc, deux remarques rapidement, c'était juste dire que parfois, on peut se dire que ça manque un peu, ce type de science-fiction. Alors, peut-être, est-ce qu'on est en train finalement de parler de hard science et plus vraiment de science-fiction, c'est-à-dire de science-fiction où la science est très importante? Ça, c'est la première remarque. C'est pas de dire que la science-fiction doit être ça, c'est de dire que parfois on peut avoir un dépit de se dire qu'à certaines époques, la science était plus importante en science-fiction, et voilà. Et qu'aujourd'hui, ça serait intéressant que des auteurs s'emparent de la science actuelle. Parce que parfois, on se retrouve, comme c'est des gens qui lisent beaucoup de fiction et pas tant de science, ils font référence à une science qui est déjà dépassée. Et l'autre réponse qui répond à ça, c'est qu'on parle de science-fiction, c'est-à-dire d'œuvres d'art. Donc effectivement, il ne suffit pas qu'il y ait de la science pour que ça fasse de la fiction. C'est-à-dire qu'il faut avoir un sens de la narration, un sens du propos. Il faut que... c'est tout à fait autre chose. En fait, ces jours-ci, moi, j'avais cette réflexion suite à la lecture du roman d'Adrian, en me disant que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un roman qui satisfaisait deux aspirations distinctes, mais qui parfois sont réconciliées, c'est-à-dire un appétit pour à la fois le divertissement qui vient par la narration, par le sens du récit et de l'aventure, et à la fois un besoin d'émerveillement qui va très souvent avec l'émerveillement scientifique. Voilà.
But also, talking about anthropology, and obviously we've mentioned Le Guin, and who is very much the master of that sort of speculative society building, and I mean especially in her short fiction, I think is just puts out one mind-blowing idea after another. But for me, the creative process, whether you're working with biology or physics or anthropology, is very similar, because what you're looking for is that logical consistency. We say, well, if A and B, then that moves you on to C, whether that conclusion is one that, well, this is the way the society will develop, or this is the way the organism will develop. It's the same mindset behind it. And certainly with the spiders in Children of Time, I found that I was able to segue fairly seamlessly from describing just their physiology and working through their physiology to going straight into how that then influenced their society. But I mean, I suppose the other thing is, it is very easy when you're writing this sort of thing to get terribly carried away with your own cleverness as far as the amount of working you're showing on the page. And it's very similar when you're building a fantasy world, because I mean, having written fantasy and science fiction. So I think one of the arts to bringing science into science fiction is very much that you use it as the skeleton for what you're building, but then you cover over as much of that skeleton as possible so that you're not overdoing your kind of pedantic explanations of why everything works. You just hopefully it comes over in the text as much as possible.
Une autre question? Par exemple, ici. Ici devant.
Non, c'est bon.
Ah, tu as le micro.
Ok, okay. Merci, bonjour. Bah, je reprends juste le titre de la conférence, une partie, La faune de l'espace. Donc, c'est 4 nouvelles ou 5 nouvelles, je ne me rappelle plus. 3. Ouais, je me rappelle. Et donc, dans ces nouvelles-là, on décrit justement des êtres qui sont assez particuliers et qu'on a du mal à relier à notre monde. En fin de compte, ma question, c'est de savoir si ce n'est pas compliqué pour un auteur de pouvoir travailler sur des bestioles, des nouveaux êtres qui ne sont pas vraiment compatibles avec notre vie à nous. Et donc, du coup, que ça s'arrête rapidement, parce que ces nouvelles s'arrêtent rapidement, parce qu'elles sont difficilement compréhensibles dans la façon de fonctionner de ces êtres-là, quoi.
Je peux... Alors, il faut bien dire que La faune de l'espace de Van Vogt est un ouvrage fondamental dans le domaine. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il a été composé de nouvelles qui sont parues initialement dans des revues et qui ont été mises bout à bout, ce qui explique la relative brièveté de des descriptions et des conséquences de ces extraterrestres. Mais rien n'aurait empêché dans le principe Van Vogt de tirer chaque fois un roman entier et de continuer. Bon, le dernier peut-être le plus spectaculaire, puisqu'on assiste à une croissance, si je puis dire, d'importance de ces extraterrestres au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, c'est l'Anabis, qui est une créature de la taille d'une galaxie, qui a l'inconvénient de dévorer les mondes qu'il rencontre, et que je crois que ça s'appelle le Challenger, enfin ou le Space Beagle plutôt, entraîne loin de la galaxie peuplée par les humains, de la galaxie d'origine, ce qui va représenter un détour de plusieurs années que l'équipage doit accepter, de façon à entraîner l'Anabis dans un espace vide où il va mourir de faim. Je ne crois pas du tout que Van Vogt, qui avait un peu d'imagination, était spécialement limité dans la description du devenir de ces créatures. Simplement, il a écrit des nouvelles parce que le débouché principal à l'époque pour les écrivains américains, c'était les revues. Et ensuite, elles étaient réunies en recueil et plus ou moins reconstruites avec un personnage central, Gilbert Gossin. Non, pas, c'est pas Gossin, je ne sais pas comment il s'appelle, mais avec un personnage central qui est sur le lien. Mais il a été reconstruit en roman, mais au départ, c'est une collection de nouvelles.
And as far as the creative process goes, there is, and especially if you do what I try and do, which is not just present an alien creature, but present the at least part of the text from the viewpoint of that alien creature, there is this. There's almost like the holy grail of science fiction writing, which is presenting something that is genuinely alien, and yet you're presenting it in a way that is still comprehensible to your human audience. And I mean, obviously, I have effectively cheated because I'm working with an Earth creature that's been evolved, so that there is a certain amount of commonality there at the start that I can rely on, but. There are a lot of very good sort of thought-provoking books there about what we might be able to assume about an alien, because there's a certain amount of the logic of Darwinian evolution that is independent of Earth biochemistry, just purely because you're looking at a sort of a game of resources and competition, which could work in a variety of other media. So you could start to work out. If you look at your starting condition for something truly alien, you can still see, well, what might develop out of that. And also you can look at things like, on Earth, if you have anything like Earth-like conditions, there are things that have evolved on Earth multiple times. And at that point, you say, well, you probably would get some sort of eye. You probably would get some sort of wing if the gravitational and atmospheric conditions were in any way similar, because we've had wings evolve 4 times. And so there, even if you're dealing with the truly, truly alien, I think you've still got a lot of toolkit that you can use to produce something that is plausible and at the same time entirely unlike Earth life? And I may just have answered a completely different question to the one you've asked, in which case I apologize.
Alors, votre question, c'était plutôt pour les auteurs. Moi, en tant que simple lecteur, je vais répondre. J'ai souvent l'impression qu'il y a, pour être très schématique, deux manières de procéder. Soit vous partez de nous, les êtres humains, et vous allez vers l'altérité. Soit vous essayez de reconstruire à partir de l'altérité, mais toujours vers un axe qui vient vers l'être humain pour que ce soit compréhensible par les lecteurs humains. De nous vers les extraterrestres, pour moi, c'est un peu la démarche de Gene Roddenberry dans Star Trek. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on se retrouve à créer des aliens qui sont toujours anthropomorphiques, que ce soit psychologiquement ou physiologiquement. À l'inverse, et c'est pour ça que je ne peux que vous encourager à lire le roman d'Adriane, c'est qu'il y a cette idée d'essayer de recréer, lui il procède dans l'autre sens, de partir vraiment du point de vue de l'altérité pour essayer de s'avancer vers l'émergence de la conscience. Et donc on voit comment les chapitres où c'est la race extraterrestre, la faune extraterrestre qui développe la conscience, comment il y a une approche très empiriste, c'est-à-dire qui est très matérialiste, de dire comment on voit les choses, qu'est-ce qu'on ressent, et choses comme ça, et comment petit à petit on construit comme une pyramide, petit à petit la pyramide qui va vers l'éveil de la conscience.
Enfin, moi, je trouve que l'anthropomorphisme, c'est toujours une erreur. C'est bien ce que je reprochais à Star Trek et à un certain nombre de sérioles du même genre. Enfin, ça n'a aucune espèce d'intérêt d'avoir des extraterrestres qui sont des faux humains. C'est quelque chose que Van Vogt, entre autres, évite très, très soigneusement. Alors, il y a un aspect qui n'a pas du tout été évoqué, c'est l'extraordinaire diversité des formes de vie sur notre Terre. Absolument incroyable. Et la rapidité avec laquelle sont susceptibles, après des disparitions d'espèces, de se reconstituer des phylums entiers. Il a été fait allusion tout à l'heure à une période ancienne, enfin 560 millions d'années si je me souviens bien. Alors effectivement, on ne connaît pas bien les descendants de ces animaux, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont disparu brutalement. Ça veut simplement dire qu'on n'a pas retrouvé encore leurs descendants. Et sur une aussi longue période de temps, il a pu s'en passer des choses.
Ah, c'est un mot de la fin qui nous permettrait d'ouvrir une nouvelle discussion d'une session complète. En tout cas, je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux. Je remercie nos orateurs. Et